Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chute, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et oui, c'est à la veille du réveillon qu'on va vous proposer une émission spéciale aujourd'hui avec deux coups de cœur ciné qui sortiront mercredi au cinéma pour ce jour de Noël. Le premier, dans un instant, consacré à Planète B, un film d'anticipation et de science-fiction réalisé par Audeléa Rapin, qui sera notre invité avec Adèle Exarchopoulos, qui est dans le film au casting. Et puis on va parler également de Mon Inséparable, qui sortira dans les salles mercredi avec Laure Calamy et réalisé par Anne-Sophie Bailly, qui sera également notre invité. Et puis à la veille de ce réveillon, peut-être vous n'avez pas fait encore vos derniers cadeaux, on va vous donner quelques idées aujourd'hui avec notamment Michael Cohen, un des héros de la série Master Crime, qui sera avec nous pour nous présenter son tout dernier roman. Jimmy Jean-Louis, également la star de la série américaine Heroes, sera avec nous pour nous parler de son livre Héros. Et puis on parlera de Jeanne, la rebelle de Dieu, le premier roman de Bénédicte Delmas, l'ex-star de Sous le Soleil, se met à l'écriture après avoir été reconverti dans la réalisation avec brio. Et bien ce coup-ci, c'est son premier roman qui sort chez Fayard, dont on va vous parler aussi aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer à 24 heures du réveillon. On n'est pas encore l'heure de mettre la dinde dans le four, mais en attendant, nous, on va s'amuser pendant toute cette heure dans Chez ton écoute la télé. Et on va démarrer tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur dans les salles qui va sortir pour Noël, pour ce 25 décembre, c'est Planète B. C'est Aude Léa Rapin, la réalisatrice, qui est justement avec nous pour en parler. Bonjour Aude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans quelques jours, le film va appartenir au public. Ça y est, c'est un film de science-fiction avec un mélange de thriller où on va basculer dans l'anticipation d'une France en 2039 où des activistes traqués par l'État vont disparaître sans laisser de traces. Mais on va découvrir qu'ils sont expatriés dans une espèce de prison virtuelle sur la planète B. Comment est venue déjà cette idée, Aude ?
Alors c'est surtout venu d'un grand désir de faire un film qui soit un film de science-fiction, hyper divertissant et en même temps réflexif, et de pouvoir associer la forme et le fond dans une grande aventure qui puisse nous parler d'aujourd'hui et de maintenant en faisant ce déplacement, ce pas de côté, en imaginant cette France de 2039. Et puis après je me suis amusée autour du slogan « Il n'y a pas de planète B », le grand slogan de tous les militants écologistes au monde, pour dire « bah si, en fait, on va en créer une planète B qui va être justement dédiée à enfermer ces militants écologistes ».
Et on va découvrir effectivement que ces militants donc sont renfermés sur cette espèce de prison virtuelle dans une sublime villa au bord de la mer, mais évidemment qui va receler bien des secrets et qui va en même temps leur offrir tout plein d'aventures. On va avoir également une jeune irakienne qui elle va essayer un peu de les sortir de là. On va voir comment évidemment sans déflorer quoi que ce soit. Il y a un casting de fou quand même aussi autour de Adèle Exarchopoulos évidemment déjà.
Oui, c'est un casting super riche et extrêmement... Enfin, le duo Adèle Exarchopoulos, Suella Yacoub, Suella qu'on a pu voir dans Dune 2, super comédienne. Et ce duo n'avait jamais été ensemble à l'écran. Et derrière, toute une génération de jeunes acteurs plus ou moins connus comme Indière, par exemple, qu'on commence à connaître bien. Mais derrière, il y a aussi Éliane Humuir, Paul Beaurepaire, qui sont des nouveaux, qui sont bourrés de talent, d'énergie. Et cette jeune génération à l'écran, c'était tout le propos du film, de créer un groupe auquel on est juste envie d'appartenir, en fait.
Quand on est en France, qu'on est une cinéaste française, est-ce que c'est difficile, justement, d'obtenir des financements, de faire un film de science-fiction? Un film de science-fiction français, c'est pas si ça court pas les rues. Et est-ce que c'est parce que c'est difficile peut-être à monter, il a fallu se battre pendant des années peut-être pour que Planète B existe?
Eh bien, en fait, effectivement, la science-fiction, c'est pas du tout dans notre ADN française. Je pense qu'on est très écrasé depuis des générations et des générations de cinéastes par le cinéma américain et ses gros budgets. Et ça a sans doute paralysé tout un tas de gens de se lancer. Et c'est vrai que c'est le pari dans lequel je me suis jetée il y a 4 ans maintenant. En fait, j'ai envie de dire que la partie la plus difficile, ça a été de penser le film, de l'écrire. Mais qu'ensuite, avec ma productrice, on a avancé, on pensait que ça allait être la guerre, qu'on allait mettre 10 ans à pouvoir bâtir ça. En plus, c'est porté par des femmes, ce qui est pas du tout classique en science-fiction, dans des films d'aventure, quoi, que ce soit des héroïnes et pas des héros. Et en fait, c'est comme si ce film était arrivé pile au bon moment, ou à l'endroit où on l'attendait, j'en sais rien. Mais on a vécu une somme jusqu'à aujourd'hui de je sais pas si c'est de la chance, je sais pas si c'est une bonne étoile. J'ai eu l'impression, alors que j'étais parée comme un CRS prête au combat, que ça a été beaucoup plus doux que ça, en fait, pour monter ce film. On sent que l'époque et les spectateurs et les gens qui financent le cinéma ont très très envie d'avoir des aventures qui mélangent le fond, la forme, des castings super chouettes auxquels des jeunes puissent s'identifier autant que des personnes plus âgées. Enfin, il y a envie de, comme ça, de renouer dans un cinéma, de faire en sorte que les jeunes n'aillent pas que voir des gros blockbusters américains et de les réconcilier avec la salle, l'envie qui s'empare de la salle française pour aller voir des films comme celui-ci.
Et puis on peut effectivement, avec de plus petits budgets hein, que les États-Unis, faire des films réussis visuellement, comme c'est le cas par exemple ici avec Planète B. Moi, ce qui m'a frappé vraiment, Aude, c'est que malgré qu'on est dans la science-fiction, qu'on est dans l'anticipation, on est projeté dans 15 ans et on peut très bien imaginer dans 15 ans ce monde vu dans celui qu'on vit aujourd'hui. Et il y a une anticipation qui est presque effrayante.
Bah, c'était tout le propos du film, en fait. C'était de pas être dans une espèce d'anticipation où les voitures voleraient dans le ciel ou je sais pas.
Des choses hyper irréalistes.
Oui, des choses où on est quasiment sûr que ça n'arrivera pas. C'était tout le principe, c'était d'essayer de projeter l'avenir avec les choses qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et d'essayer d'en donner un. Mais comme pour exorciser des peurs, je pense qu'on a tous peur. Peu importe qui on est, peu importe l'âge qu'on a, peu importe, je crois que c'est pire encore pour les gens qui sont plus jeunes, évidemment, de se projeter dans le monde est tellement incertain, c'est tellement, ça va tellement vite, les crises s'enchaînent les unes après les autres, que faire ce film, c'était à la fois pour me réconcilier avec demain et à la fois pour que des gens qui puissent entrer en salle aient ce même sentiment, de se dire ok, on a des outils, on peut en parler, on peut débattre, on peut avancer avec des choses, on n'est pas tout seul, quoi, avoir peur dans son coin.
On va écouter la bande-annonce, Planète B, ça sort au cinéma et on va revenir juste après, Aude, pour continuer à parler évidemment de ce film à ne pas manquer au cinéma, mélange de science-fiction et de thriller à découvrir, on écoute.
Je me rappelle de rien. Il y avait des drones. Il y a des CRS qui sont arrivés.
Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste.
Personne va dénoncer personne.
C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous.
Allez, Aude, Léa Rapin est avec nous aujourd'hui pour parler de Planète B qui sort au cinéma. On est dans l'anticipation, on est dans le futur, on est dans une espèce de monde futuriste dans ce film. Malgré tout, est-ce qu'il y a eu des challenges visuels? Il y a eu un travail sur la lumière, sur la photographie qui a été assez dingue. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est quand on découvre cette magnifique baie avec cette magnifique villa qui passe du jour à la nuit, comme ça. Il y a un travail visuel incroyable.
En fait, ce qui est génial avec la science-fiction, c'est qu'un film comme celui-ci, ça m'a permis de découvrir et d'utiliser tous les outils du cinéma. Ça va de la construction de décors, de la lumière évidemment, les effets spéciaux, les effets plateaux. Donc, on est plein d'artifices, on a fait des bombes, on a un monde sonore aussi, utiliser la musique, utiliser le sound design. C'est très complet de faire de la science-fiction parce qu'en fait, on crée des mondes qui n'existent pas, on crée des univers et des atmosphères qui ne sont pas tout à fait réels et que du coup, ça implique et beaucoup de gens et beaucoup de corps de métier, et que c'est passionnant à fabriquer, et que c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Je peux vraiment pas dire que c'est un film que j'ai fait seul, je peux pas rouler des mécaniques, c'est un film où j'ai eu besoin de beaucoup de gens, du talent de beaucoup de gens, et c'est toute une orchestration qui est juste incroyable, c'est très généreux de faire de la science-fiction.
Il y a des fois, il y a beaucoup de monde à l'écran, beaucoup de figurants, beaucoup de scènes et de poursuites, de choses comme ça, c'est, là aussi, c'est assez dingue.
Ça me donne envie d'ouvrir encore plus à l'avenir, de continuer. C'est passionnant d'avoir 100, 200, 300 personnes sur un plateau qui courent dans tous les sens, avec des boucliers, avec des qui crient, qui envahissent des lieux. C'est un souterrain, là, en l'occurrence, d'une base militaire dans mon film. C'est génial à tourner. C'est très, très drôle à faire. C'est puissant aussi. On a vraiment l'impression d'y être. Quand on tourne ce genre de scène, on a vraiment l'impression de les vivre. C'est ça qui est génial, c'est de chercher ces moments où on bâtit un plateau avec un tel univers qu'on finit par y croire soi-même, comme si c'était réel.
Alors, pour ne rien déflorer évidemment du film, mais pour parler un peu des 5 premières minutes, on y suit Julia, à qui va arriver un malencontreux accident en quelque sorte, et qui va se retrouver justement dans cette planète B, dans cette prison virtuelle, et on va suivre en même temps cette journaliste irakienne qui, elle, a son QR code qui va expirer très prochainement et qui se retrouve justement à faire des ménages dans cette base militaire et qui va essayer en tout cas de partir vers le Canada, c'est son rêve, et au fur et à mesure du temps, elle va tomber donc sur un espèce de casque qui va la relier à cette planète B. Et c'est tout cet enjeu-là qu'on va suivre tout au long du film.
Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment l'histoire de deux femmes, l'une jouée par Adèle Exarchopoulos, l'autre par Swella Yacoub. C'est la rencontre improbable entre ces deux femmes, comme dans un escape game, en fait. C'est, il faut sortir de là, il faut sortir de cette prison. Elles sont deux.
C'est pas mal dit, c'est vraiment de la mode en plus, mais ça fait penser vraiment à un escape game, ouais.
Bah, c'est ça, en fait. Puis, et comment elles vont s'entraider l'une d'un côté, l'une de l'autre de la frontière, entre deux mondes, et passer cette frontière entre les deux mondes pour sortir celle qui est emprisonnée, pour l'amener dehors, et faire tomber si possible même tout l'univers carcéral qui retient Adèle et les autres captifs prisonniers. Ça, c'est vraiment le moteur du film, l'enjeu du film, et parce que voilà, on a beaucoup parlé d'anticipation du futur qui fait peur, mais derrière c'est un énorme film en soi. Enfin, l'endroit où j'ai plus envie de le défendre, c'est que c'est un endroit de résistance et de lutte collective,
de résilience et de liberté.
Ouais, tout à fait, des liens qu'on crée les uns avec les autres dans plus les situations sont dures, et je l'y crois aussi pour la vie, plus c'est dur, plus on n'a pas le choix que de créer des liens aussi forts les uns avec les autres. C'est des liens d'entraide, et ça, c'est le lien intime, en tout cas c'est le propos intime du film.
Le décor principal, cette villa, elle a été tournée où? Côte d'Azur, j'imagine?
Non, je le dirai pas.
C'est vrai? En France ou même pas?
En France, mais ça aurait pu, on n'est pas très loin d'une frontière.
Très bien, ok. Italie. Bon, j'ai rien dit. Bon, on va découvrir en tout cas Planète B, Audeléa Rapin, qui a réalisé donc ce film que vous allez pouvoir découvrir justement au cinéma si vous êtes un peu amateur de ce genre science-fiction, un peu thriller ou pas. On vous invite en tout cas à aller le découvrir par curiosité, et puis voir surtout ce duo sublime entre Adèle Exarchopoulos et Suyela. Ils sont incroyables toutes les deux. Donc voilà, on a passé en tout cas un sacré moment. Merci beaucoup, Aude.
Merci à vous.
On se dit à bientôt.
J'espère.
Bah oui, pour le prochain film, il y a déjà quelque chose en route ou pas?
Complètement.
Mais ça peut. On n'en dit pas plus.
À peu près aussi secret que le lieu où se trouve la villa de Planète B.
Merci en tout cas, Aude, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Planète B, donc, c'est mercredi au cinéma. Dans un instant, Michael Cohen, Jimmy Jean-Louis, Bénédicte Delmas et Anne-Sophie Bailly seront nos invités. On va continuer à parler livres, comédie et cinéma. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Ensemble, passer Noël ensemble.
Noël ensemble.
Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble.
Refuser d'être seul,
revenir à l'enfance
et pouvoir rêver.
Un sapin qui touche le ciel,
une forme d'une guirlande.
Et quand tout est quitte celle, qu'une étoile nous attend.
Noël.
Noël ensemble,
Rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, c'est un coup de cœur livre qu'on vous propose aujourd'hui avec Jimmy Jean-Louis qui est notre invité. Justement, Jimmy Jean-Louis, on le connaît tous pour son rôle du haïtien dans la série Heroes. Et c'est évidemment dans un livre qui raconte son parcours, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Jimmy est avec nous. Bonjour Jimmy.
Bonjour, bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Héros, c'est le livre effectivement attendu par les fans de la série où tu racontes du coup ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené effectivement jusqu'à Hollywood? Comment tu t'es battu aussi? Moi je dirais que c'est le livre d'un guerrier presque là qu'on a devant nous.
Ben c'est vrai que quand on retrace le parcours, c'est assez peu probable hein, ce qui s'est passé, partant des bidonvilles jusqu'aux étoiles d'Hollywood, comme je le dis dans le titre. Voilà, il m'est arrivé des choses extraordinaires, des bonnes choses, des mauvaises choses, enfin bref, j'ai tout pris. Mais il m'a semblé nécessaire de retracer ce parcours, de laisser des traces. Donc voilà, je parle de ma jeunesse en Haïti, je parle de mon adolescence aussi à Paris, je parle de la vie de jeune adulte, je parle du fait que j'ai été SDF à Paris, puis de tous mes voyages dans tous ces lieux assez magiques pour moi, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, jusqu'aux États-Unis. Donc ouais, on retrouve un peu tout, on retrouve mes moments forts, mes rencontres qui ont pu me motiver à faire certaines choses, telles que la rencontre avec Nelson Mandela, et puis aussi bien sûr je parle de mes premières expériences dans le cinéma à Hollywood.
Tu dirais que tout ce qui a pu t'arriver de difficile dans ce parcours que tu décris dans le livre, c'est quelque chose qui t'a forgé aujourd'hui, qui fait la personne que tu es?
Oui, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de non. Il y a eu beaucoup plus de non que de oui. Et moi, je me fais avec le fait que, voilà, si on veut pas de moi, c'est là que je vais revenir encore plus fort, je me bats et je lâche rien. Donc, il y a une certaine résilience quand même qui est là. Je pense que ça, c'est dû à Haïti aussi. Hein. Je viens d'une terre où il a fallu me battre très, très tôt pour essayer d'exister.
Donc, survivre.
Et survivre, ouais. Donc, la survie, je la connais depuis le tout jeune âge et j'ai continué à flirter avec la survie quand je suis allé dans la banlieue parisienne, parce que faut savoir que quand on vit dans la banlieue, on est dans une forme de survie aussi, parce qu'on se bat contre un système, contre cette société qui essaie de nous écraser. On a du mal à exister. Donc, j'ai dû me battre contre tout ça pour exister.
Tu as joué avec les plus grands. Aujourd'hui, tu vis du côté de Los Angeles. Est-ce qu'aujourd'hui, il a été difficile d'appréhender ce cinéma hollywoodien, cette télé hollywoodienne, ces séries américaines? Aujourd'hui, c'était l'âge d'or des séries américaines. Quand on pense à Prison Break, à Heroes, évidemment, dans lequel tu as incarné le haïtien. On se dit, est-ce que cet âge d'or, justement, n'est pas un peu passé?
Je sais pas, en tout cas, cet âge d'or a fait ce qu'il fallait faire. Hein,
en tout cas, nous en France, hein, peut-être pas aux États-Unis, mais nous, on a beaucoup moins de séries, en tout cas, on a l'impression qu'ils nous arrivent.
Oui, oui, il y a peut-être moins de séries qui arrivent en France parce qu'il y a beaucoup plus de séries qui se font partout dans le monde. Mais les Américains continuent toujours à créer. Ce qui est bien maintenant, c'est que tous les acteurs de télé ou de cinéma, les réalisateurs de cinéma, ils se mettent tous à faire de la télé. Donc on a de très très bonnes séries télé qui nous arrivent. Je sais pas si ça vient jusqu'en France, mais voilà, ça continue à être super super coté aux États-Unis en tout cas. Moi, j'ai plus tendance à faire du cinéma. J'aime bien les séries, hein, mais je m'éclate plus avec le cinéma. Ça me permet de voyager, ça me permet de m'exprimer beaucoup plus. Faut savoir que la télé, c'est un format qui est super rigide. C'est super rigide. L'acteur n'a pas trop le droit de
sortir du cadre.
Voilà. Donc, faut vraiment dire les mots tels qu'ils sont écrits. Voilà. Alors que le cinéma nous permet d'avoir des échanges artistiques avec le réal, avec le scénariste. On peut sortir du cadre et ça m'éclate beaucoup plus, pour dire vrai.
Ce qui est assez drôle, c'est que pour le coup, la télévision t'a offert tes plus beaux rôles en France, pourtant, avec Moloch Tropical, avec Toussaint l'Ouverture, c'est en France.
Oui, c'est vrai que je crache pas sur la télévision, hein, je veux dire, c'est vrai que ce soit Moloch Tropical, Toussaint l'Ouverture, Heroes, Arrow, il y a plein de séries que j'ai fait, de films que j'ai fait pour la télévision. Mais ceci dit, c'est vrai que quand je me balade au Nigeria, en Inde, au Panama, en République Dominicaine pour faire des films, ça m'éclate beaucoup aussi.
C'est chouette de voyager. Et puis il y a aussi l'explosion des plateformes qui permettent ça, qui aujourd'hui produisent partout dans le monde. Donc quand on a la chance d'avoir un comédien comme toi qui parle 5 langues, aujourd'hui c'est un cadeau pour un producteur, un réalisateur.
Oui, c'est un cadeau. Encore une fois, faut que j'arrive à me vendre aussi, parce que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Si c'était si facile que ça, non, mais de l'autre côté, ça reste un grand combat pour moi. J'habite à Los Angeles, je suis basé à Los Angeles, mais pour que je fasse des films en Afrique, en Inde, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, ben il faut que je me bats aussi, il faut que je voyage, il faut que je rencontre les gens. Ça veut dire, c'est faire les festivals, festival de Cannes, festival de Toronto, Sundance, Berlin, c'est voyager dans tous ces endroits pour justement être plus proche de tous ces faiseurs de cinéma, tous ces talents. Donc pour moi, c'est un travail mais phénoménal que je fais depuis plus de 25 ans aussi. Donc voilà, maintenant ça apporte ses fruits, mais ça a pris beaucoup de temps avant de vraiment cliquer, avant de vraiment tourner dans tous ces pays, dans tous ces continents.
Alors ce livre raconte évidemment ce parcours-là. C'est un livre, moi, le feuilleton, je me suis dit, mais j'aurais tellement envie de le voir sur un écran. L'enfant d'Haïti, ça serait presque le titre idéal.
Peut-être qu'un jour on pourra voir le film Héros ou le film L'enfant d'Haïti. Moi, j'ai quand même voulu parler d'une certaine expérience qui mérite d'être lue et qui mérite peut-être aussi d'être vue à la télé en forme de série, voire même en forme de film. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, il y a des options qui se présentent à ça.
Alors, il y a plein de beaux projets qui arrivent pour 2025. Il y a beaucoup de films pour le cinéma, dont un que tu as tourné en France, d'ailleurs, à Vannes, avec un réalisateur dominicain, qu'on recevra d'ailleurs à l'occasion de la sortie du film, qui raconte l'histoire d'un homme basé en République dominicaine qui va apprendre le décès tragique de son épouse dans un accident, et en récupérant son téléphone portable, il va s'apercevoir qu'elle reçoit des messages de France d'un mystérieux amant que tu joues, et il va décider de partir à Vannes à sa rencontre, une rencontre à la fois tout en douceur, tout en émotion, qui va se faire entre ces deux hommes.
Oui, c'est un très beau film. C'est un très beau film parce
qu'il s'appelle Au revoir. Voilà.
Ouais, il s'appelle Au revoir de Ronny Castillo. Donc, on a tourné en République Dominicaine et à Vannes. Et bien entendu, j'incarne ce personnage de cet amant qui se retrouve face à face avec le mari de sa copine, et sa copine est décédée. Donc voilà, c'est une histoire tragique, romantique, beaucoup d'émotions. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. La première sortie était durant le festival d'Angoulême et je pense qu'on va avoir une sortie cinéma d'ici 2025.
On a déjà d'autres projets pour 2025 qui t'attendent aussi ?
Oui, il y a le film que j'ai tourné au Panama qui s'appelle Killing of a Nation, et c'est un film sur l'assassinat de, du président haïtien de 2021, Jovenel Moïse. Donc il a été assassiné par un groupe de mercenaires, plutôt des Colombiens. Et puis voilà quoi, on met la lumière sur ça. Il y a Issa Maïga qui joue ma femme d'ailleurs dans ce film. Et c'est un film avec un très gros casting aussi, très bon budget. Et j'ai hâte de partager cette histoire au monde entier parce que malheureusement on n'a pas encore trouvé de vrais coupables dans cette histoire. Et il faut qu'on puisse trouver la vérité quoi. C'est pas normal que de nos jours en 2024 qu'on puisse pas trouver un coupable pour un président qui se fait assassiner devant tout le monde. C'est quasi incroyable.
C'est ça qui est totalement dingue. Les difficultés, les succès, les moments difficiles, tout est décrit, en tout cas, dans ce livre. Ça s'appelle Héros, ça vient de sortir aux éditions Récamier.
Et quand on parle de moments difficiles, c'est vrai que je le signale encore. Moi, j'ai perdu tous les hommes de ma vie. Et ça dans un moment très très court, c'est-à-dire mon père, mon frère et mon fils. Donc je parle aussi un petit peu de ça parce que ce sont des vraies épreuves de la vie. Il fallait que je fasse face à ça. Et j'en parle aussi simplement que j'ai pu, mais j'en parle aussi parce que ça fait partie de ma vie aussi.
Ouais, parce que c'est pour ça que j'aime à dire que c'est vraiment un livre aussi sur la résilience, ce bouquin que vous pouvez vous procurer en tout cas dans tous les bons espaces culturels. Voilà, Jimmy Jean-Louis, notre héros, pour faire un jeu de mots, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood, c'est maintenant et c'est dans tous les bons, chez tous les bons libraires. Merci Jimmy d'avoir été avec nous.
Merci Alain.
Et à bientôt.
À très vite.
Allez, à deux jours de Noël, on continue à vous donner quelques belles idées cadeaux. Et là, moi, j'en ai une belle à vous donner. C'est le premier roman de Bénédicte Delmas, intitulé Jeanne, la rebelle de Dieu. Bonjour Bénédicte, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, si comme moi, vous avez adoré évidemment le personnage de Laure Olivier dans Sous le soleil, Bénédicte, c'est surtout maintenant la réalisation et surtout un premier roman. En tout cas, on est tellement heureux de te retrouver dans un autre registre aussi.
Merci, bah oui, c'est une nouvelle aventure.
Excitante comme aventure, justement, le fait de d'écrire ce coup-ci, parce que depuis plusieurs années, t'es passé plutôt derrière la caméra. On te doit Brigade du Fleuve il y a pas longtemps, justement, avec Roxane Turmel, et tout plein de beaux téléfilms qui ont été primés, d'ailleurs, je me rappelle encore de Elle, les filles du Plessis, tu vois, ça m'a marqué, il y a quelques années, que t'avais réalisé avec brio. Mais le roman, voilà, c'est une première.
C'est une première et c'est un nouveau voyage dans une époque qui est la Renaissance, que je connaissais assez mal, mais qui m'a demandé de travailler, d'approfondir mes connaissances. Et en fait, j'ai eu énormément de liberté dans l'écriture et c'est surtout ça que je retiens de l'écriture de ce livre. Une grande liberté par rapport au projet que je réalise en temps normal.
Alors, j'avoue que quand on lit le livre, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que peut-être plus que jamais encore, je sais pas si tu l'as écrit peut-être dans cette optique-là, toi qui as cette fibre de réalisatrice, mais je voyais défiler des images devant moi parce qu'on est dans un mélange de personnages qui ont existé, comme celui de Jeanne de Lestonac, hein, que tu racontes avec tout plein de personnages qui ont existé autour, et des personnages fictionnés aussi. Et il y a cette espèce de mélange où quand on le lit, on voit défiler devant nos yeux presque comme un film, en fait, l'histoire de Jeanne.
En fait, j'avais envie de quelque chose de visuel parce que j'aime bien que le lecteur puisse se faire le film, en fait, en lisant. Et je trouve que c'est une façon de l'impliquer dans l'histoire et de lui donner envie de tourner les pages. Donc, j'avais envie que ce soit très visuel et très organique comme récit.
Et t'aimerais réaliser l'adaptation ?
Écoute, je ne dirais pas non. Non, bien sûr, ça me plairait. Après, je pense que c'est cher. Le film d'époque, c'est très cher. Donc, et en plus, je pense que ça ne convient pas à un format d'unitaire. C'est plutôt une mini-série, un 6x52 minutes. Donc, c'est tout de suite un projet d'envergure. Moi, ça me plairait, mais je pense que c'est plus difficile à monter, en fait.
En tout cas, vous allez pouvoir déguster ce livre. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, justement, de mettre comme ça sur écrit ce personnage de Jeanne de Lestonnac? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer chez elle?
La première chose, c'est que j'ai appris qu'elle n'était pas seulement la nièce de Montaigne, mais surtout, elle a monté la première école pour filles d'enseignement général. Donc, le fait que cette femme s'engage pour l'accès à l'éducation des femmes, c'est la première chose qui m'a touchée, parce que tout de suite, je me suis dit, mais là, on est à l'âge de la Renaissance, elle veut instruire les filles, et dans ce combat, elle se heurte à énormément d'opposition. Personne ne veut, personne n'a d'intérêt à ce que les femmes soient éduquées. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a touchée parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans certains pays. On sait que en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, l'accès à l'éducation pour les femmes est interdit pour les petites filles. Et il y a 120 millions dans le monde de petites filles qui n'ont pas accès au banc de l'école. Personnellement, je trouve que c'est un enjeu majeur pour les sociétés de permettre l'accès à l'éducation pour les femmes. Parce que une société heureuse, c'est une société où la moitié de la population n'est pas laissée pour compte et enfermée chez elle. Donc, voilà, c'est ça qui m'a plu dans ce personnage, le fait qu'elle soit une héroïne puissante et contemporaine dans son combat.
Et à la fois très très moderne, oui, parce que on va voir bientôt d'ailleurs à la télé Olympe de Gouges, hein, qui a été réalisée par Mathieu Busson et Julie Gayet, et on a l'impression justement que toutes ces femmes qui ont marqué peut-être l'histoire et dont on n'avait jamais entendu parler quasiment, sont enfin mises à l'honneur, sortent justement de ce placard grâce à des réalisatrices comme Julie ou comme toi, pour le roman là.
Oui, c'est vrai que beaucoup de femmes pourtant importantes ont été invisibilisées. On les a oubliées, on les a même effacées pour pas mal d'entre elles. Et on est aujourd'hui à une période où on a envie de remettre à l'honneur le combat de ces femmes.
Il aura fallu plus de 800 ans quand même, puisque là, ton roman démarre en 1589. Et en plus, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, hein, dans le Bordelais à Landiras, qui a tant souffert dernièrement. On pense évidemment à cette région qui a souffert d'incendies terribles. Et c'est là que démarre justement ton roman. C'est à Landiras, près de Bordeaux.
Tout à fait. Il démarre à Landiras. L'histoire va aussi se passer régulièrement à Bordeaux. Puis on traverse les Landes pour arriver au Pays Basque et faire un petit crochet par chez moi. Voilà.
En tout cas, c'est une histoire très forte que vous allez pouvoir découvrir. On va pas vous défleurer évidemment tout le roman parce que on vous invite à le découvrir. Ça vient de sortir il y a quelques semaines chez Fayard. Ça s'appelle Jeanne, la rebelle de Dieu. Et c'est ton premier roman, Bénédicte. Quand ce premier bébé a parti en public, j'imagine que tu penses déjà à la suite. Est-ce que tu as déjà envie? Est-ce que le crayon te démange?
Le crayon me démange. On peut dire ça.
C'est une bonne nouvelle.
On peut dire ça. J'ai mon sujet pour le deuxième roman. Maintenant, c'est beaucoup de temps et j'écris à mes heures gagnées. Donc, voilà, j'ai du mal à me projeter dans l'écriture là, dans les mois qui viennent. Mais j'ai mon sujet et surtout très envie de me remettre à l'écriture.
Oui, surtout que tu pars en réalisation juste après les fêtes, hein. Donc, j'espère que tu vas profiter d'un repos bien mérité pendant ces deux semaines, parce que je crois que janvier-février va être costaud.
C'est ça, je serai à Nice pour une nouvelle série pour France Télévisions.
Est-ce qu'il y aura une suite à Brigade du Fleuve, en tout cas, est-ce que tu vas réaliser? Parce que je sais qu'une suite est prévue, a priori, et que ça a plutôt très très bien fonctionné même, hein, on peut dire.
Oui, ça a très bien marché. Il y a une suite de prévues qui se tournera au mois d'avril, et je serai le capitaine de ce nouvel épisode. Donc, oui, avec plaisir.
Eh ben, l'équipe va être très heureuse, en tout cas, de te retrouver, parce que vu les éloges qu'ils ont fait sur le premier et le travail que tu as fait avec eux, ils vont être, je suis sûr, ravis de te retrouver, en tout cas.
Merci.
T'as tourné la page de Bénédicte Delmas, comédienne, ou est-ce que tu t'interdis pas un jour peut-être de revenir aussi devant la caméra? Parce que je suis sûr que c'est quelque chose que les gens te demandent souvent. T'as tellement aimé dans ce rôle de Laure qu'on aimerait aussi peut-être te voir dans d'autres aussi.
Je crois que c'est vraiment fini. J'ai beaucoup de plaisir à être derrière la caméra. Voilà, je dis pas que je ferai pas une séquence pour un copain comme ça, voilà, comme clin d'œil, mais je redeviendrai pas comédienne, non.
Eh ben, la voie de la réalisation, en tout cas, et du roman se sont ouverts à toi pour notre plus grand plaisir. On découvre Jeanne, la rebelle de Dieu, chez Fayard. Pour ces fêtes de fin d'année, il vous reste encore 2 jours, quasiment à peine, hein, pour faire vos cadeaux de Noël. On te souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël. Et puis, on se retrouve en 2025 ensemble, en pleine forme, j'espère. À très vite.
Merci, joyeux Noël à tous.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, Martin Lamotte est notre invité dans Chute, on écoute la télé pour ses fêtes de fin d'année. On est bien heureux de retrouver notre monsieur Lambert qu'on a tant aimé dans Nos chers voisins et qui se retrouve clown sur la scène du Festival international du cirque du Périgny près de La Rochelle. Bonjour Martin.
Bonjour, bonjour les petits enfants.
Merci d'être avec nous. Je crois que tu es en train de réaliser mais un rêve de gosse depuis le 30 novembre dernier. Tu joues le clown au Festival du cirque de Périgny. Si vous êtes près de La Rochelle ou si vous y venez pendant les fêtes, allez voir ce spectacle. Incroyable, tu prends un plaisir dingue là, ça se sent.
Bah oui, c'est fantastique parce que j'en rêve depuis petit. Maintenant, j'arrive à un âge canonique, hein. L'âge où on n'a plus le droit de lire Tintin, vous savez, de 7 à. Voilà, j'y suis. Donc, et c'est fantastique, maintenant je fais le clown, mes petits-enfants vont venir me voir, je n'aurai plus aucune autorité.
C'est ça, et surtout que tu partages la scène avec un certain Chris, et vous menez un peu la vie dure tous les deux.
Mais oui, c'est un duo. Moi, j'aime bien les duos parce que c'est rigolo. Et ça marche bien. On s'amuse bien. Et puis, il y a un spectacle magnifique quoi, à voir. C'est du vrai cirque, du cirque à l'ancienne.
Tu as eu quelques appréhensions? Qu'est-ce que tu t'es dit quand on t'a proposé ça? Quand on est venu te voir, on a dit voilà. Et alors qu'on peut en rêver tout petit, mais se dire oh là, je vais pas être capable, je sens pas.
J'ai eu très peur parce que je me suis dit oh là là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Une fois, ça va, mais là, elle m'a proposé un mois. Donc, c'est pas pareil. Et je me suis dit, si jamais je m'adapte pas, si jamais c'est pas bien et que c'est pas j'ai un mois de pénitence à faire. Et puis, bon, ça s'est bien passé. On a beaucoup travaillé sur le tas et je suis content.
Finalement, c'est un peu comme le théâtre. C'est la troupe, c'est tous ensemble, c'est aussi ce que t'aimes quand même.
Oui, bien sûr, c'est la troupe et c'est la chose la plus importante. Ça, c'est de la même famille que le théâtre, c'est cousin. Mais il y a des animaux, il y a des numéros, la piste est ronde, il faut voir avec tout le monde, il faut prendre à partie le public, sinon c'est lui qui vous prend à partie, et des choses qu'on ne fait pas au théâtre, mais c'est génial.
C'est une sacrée corde à ton arc de plus, là, mine de rien, que tu vas signer pour cette fin 2024, là.
Oui, ça y est, je suis presque à jour. J'ai presque tout fait. Non, mais c'est formidable. Et puis, il y a des camarades très, très sympathiques et j'apprends encore plus plein de choses. Je ne fais plus de numéro, hein. Je n'en ai jamais fait, mais je ne ferai pas. J'ai pas envie de me casser un truc.
Tu fais quand même un numéro, hein, un numéro de clown et qui nous fait bien rire, il faut le dire quand même.
Mais j'espère, je suis ravi de ça, mais j'avais peur, hein. On ne sait jamais, c'est pas du tout pareil, c'est des choses simples et tout. Puis j'ai écrit ce sketch, hein, pour faire un petit truc pour les enfants. La vie de Cendrier, c'est pour les enfants.
C'est génial. Oui, parce que vous allez voir, c'est pas Cendrillon, c'est Cendrier que vous allez découvrir. Et ce n'est plus une chaussure qu'elle a perdue. Vous verrez en allant voir le spectacle.
Voilà. Bon, j'espère que ça fait rire les enfants. Mon petit-fils était content. Je l'ai lu, il a ri.
Nous aussi, je te rassure.
Bon, merci beaucoup.
Bon, 2025, qui t'attend quoi, mon cher Martin?
Eh ben, du cinéma. J'ai un film en projet. J'attends beaucoup, je ne refais pas de théâtre tout de suite, j'ai plein de propositions, mais parce que j'ai fait 40 pièces là, ces derniers temps, donc je freine un petit peu, et puis je veux refaire de l'image, donc je repars au cinéma, je tourne, j'ai des projets, dès que j'aurai fait un peu d'image, je retourne au théâtre tout de suite.
Un petit peu de télé aussi?
Oui, bien sûr, de la télé, mais de l'image, voilà.
Donc 2025, on va te voir en tout cas dans le courant de l'année, très probablement.
Oui, et peut-être que je referai une apparition en clown au festival, mais là par amitié pour cette institution qui est magnifique à Marmande, le Festival International.
Mondo Clown,
voilà, c'est génial.
Bon, je sens qu'il prend goût.
Oui, j'y prends goût.
Bon, Martin, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve jusqu'au 31 décembre au Festival International du Cirque de Périgny, près de La Rochelle. Pour ceux qui sont dans ce coin, on se retrouvera dans cet antre, en tout cas, de ce festival qui, on espère, en tout cas, va battre son plein jusqu'à la fin de l'année. Puis on te souhaite de belles fêtes.
Ben oui, merci.
Ben oui, ça, Noël arrive. Hein.
J'ai mes amis qui viennent me voir et mes petits-enfants qui sont là. C'est le summum.
Que demander mieux pour le clown Martin Lamotte?
Voilà, pour Noël. Joyeux Noël à tous.
Merci Martin, à bientôt.
Merci, à bientôt.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
Il y a deux jours de Noël, peut-être que il reste encore quelques cadeaux à faire. On est en train de vous donner plein d'idées aujourd'hui avec Bénédicte, avec Jimmy, et on va continuer avec Michael Cohen qui nous rejoint. Bonjour Michael.
Bonjour à vous tous.
Avec un livre qui s'appelle L'attraction du désordre, qui est sorti en février, si je ne m'abuse, et qui peut être une belle idée cadeau en tout cas pour ces fêtes de fin d'année. Alors Michael, on peut pas t'avoir sans parler de Master Crime, évidemment, puisque on vient de suivre avec grande attention cette saison 2. Et on va dire qu'avec le personnage de Anne Le Nain, c'est toujours un peu chien et chat quand même, les deux.
Oui, tout à fait. Alors déjà, je me permets de souhaiter à tous un très joyeux Noël. Et j'espère que vous êtes heureux en famille, en amis, en amoureux. Enfin bref, que vous passiez d'excellentes fêtes. Et pour revenir à Master Crime, oui, effectivement, c'est chien et chat, mais c'est un tel bonheur de participer à cette série. D'ailleurs, on va commencer la saison 3.
Ah, ça, c'est la bonne nouvelle.
Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave. On commence le tournage dans quelques jours, là. Et oui, c'est un bonheur parce que c'est une série qui est à la fois très originale, enfin, qui parle. Bien sûr, il y a des enquêtes, il y a des crimes, mais en même temps, ça parle d'amour, ça parle de transmission. Surtout, j'aime beaucoup la relation de Muriel Robin avec ses jeunes élèves et donc qui transmet quelque chose. Enfin, leur transmet en gros une idée qui est n'écoutez pas forcément toujours vos professeurs, soyez aussi presque un peu rebelle par rapport à l'éducation. Et l'éducation en général, ça sert à la fois à prendre des bases et aussi à la fois à s'en détacher.
C'est
ça,
sortir des sentiers battus.
Exactement, c'est ça qui est beau dans cette série, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et puis bon, j'aime beaucoup mon personnage qui est quelqu'un qui découpe des cadavres, qui est le roi de l'anatomie, et en même temps quand il s'agit du cœur, il y connaît rien. Enfin, c'est ça qui est drôle.
C'est ça qui est drôle, c'est que tous les deux avec ce personnage de Anne, est-ce que vous allez enfin vous assumer quand même, parce que alors, ces deux-là, ils se cachent perpétuellement quoi, mais à un moment donné, il va falloir sortir au grand jour.
Oui, bah ils ont la chance ou la malchance de travailler ensemble et de devoir être professionnels. Et en même temps, bah, ce qui arrive souvent sur les lieux de travail, on tombe parfois amoureux de notre collègue, de nos collègues, et donc c'est ce qui leur arrive. Voilà, donc ils sont toujours sur un fil entre est-ce qu'on peut assumer notre attraction du désordre. Petite référence à mon livre.
Ouais, ça, on y arrive en plus. T'es déjà en train de faire la passerelle.
Où est-ce qu'on doit se cacher? Et en fait, bon, bah, c'est ce qui est joli dans cette série et dans cette relation entre les deux, c'est qu'ils se cherchent. Bon, ils vont forcément se trouver, mais après, quand ils vont se trouver, est-ce qu'il va pas y avoir d'autres embûches? Bon.
Ce qui fait énormément rire, c'est qu'ils se cachent, mais tout le monde sait, en fait, autour, que ces deux-là, franchement, c'est ça qui est tellement drôle.
Bien sûr, et oui, tout le monde le sait. En tout cas, le spectateur, dès la première scène, sait et a envie qu'ils finissent ensemble. Ça qui est beau, c'est comme les ressorts de la comédie romantique, c'est-à-dire que le public est complice. Le public voit avant les personnages eux-mêmes ce qui va se passer, et on attend juste le moment, à quel moment ils vont se faire ce bisou, à quel moment ils vont y aller. C'est comme chez Guignol, quoi. Enfin, le spectateur, il est là à dire oui, c'est lui, c'est elle. Et c'est les ressorts de comédie classiques, mais très touchants, quoi. Oui.
Notre première rencontre, c'était il y a 18 ans. Pour le film Hill, sur Cognac, pour le coup, Michael. Et depuis, c'est passé plein de choses pour nous, et c'est passé plein de choses pour toi. Beaucoup de rôles, et puis surtout aujourd'hui, des romans, parce que tu écris aussi beaucoup, et L'attraction du désordre est donc ton dernier roman, qui est sorti en février de cette année, et qui peut être un cadeau idéal pour Noël. Si vous savez pas quoi offrir dans deux jours, eh bien, nous avons le cadeau, le livre de Michael Cohen, qui s'appelle L'attraction du désordre. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs, là, maintenant, pour donner envie d'offrir ton livre à quelqu'un qui s'aime?
Je leur dirais déjà que moi, quand j'arrive à un dîner par exemple, ou quand je suis invité quelque part, je ramène jamais une bouteille de vin mais un livre. Je trouve ça très beau d'offrir un livre à quelqu'un, c'est-à-dire d'offrir une émotion, une histoire, des mots, une transmission. Je trouve ça, voilà, pour moi c'est un cadeau que je fais tout le temps quand je vais quelque part, chez quelqu'un, quand je suis invité, j'offre un livre. Pas forcément, bien sûr, mon livre, mais j'aime offrir des livres que j'ai aimés ou j'imagine, voilà. Et donc, je sais pas, je dirais aux gens qui ont envie de l'offrir à des gens qu'ils aiment, que c'est un livre qui parle, bien sûr, d'amour, d'amour, à la fois d'un amour très sain et aussi d'amour passionnel, qui parle aussi d'amitié. En fait, c'est, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui tombe, enfin d'une femme et d'un homme qui tombe amoureux l'un de l'autre. Et un jour, la femme raconte à cet homme la passion qu'elle a vécue juste avant lui, une passion qui a failli la détruire et dont elle veut mettre un terme définitif, et cet homme l'aide à mettre ce terme. Sauf que cet homme-là, par jalousie rétrospective, par manque de confiance, va se comparer à cet homme du passé, et ça va lui pourrir son présent. Ce passé va lui pourrir son présent, tellement qu'un jour il décide d'aller rencontrer l'homme du passé pour arrêter de le fantasmer, et contre toute attente, il va avoir un coup de foudre amical pour lui. Ça va être réciproque, et en fait ils vont devenir, ces deux hommes là vont devenir très très amis, tellement que ça va créer le désordre dans cette histoire, dans
ça
ce couple.
L'attraction du désordre.
Exactement. Et ce que je voulais raconter d'abord, c'est que toutes nos histoires du passé sont reliées les unes les autres, et que en vrai, on devrait presque tous remercier les femmes ou les hommes qui nous ont amenés jusqu'à la personne avec qui on est aujourd'hui. Et puis aussi raconter que il peut y avoir des histoires d'amour autant en amour qu'en amitié, et que l'amitié peut parfois aussi être une réponse à des attentes ou à des désirs, à des manques, et qu'on peut devenir ami avec une personne avec qui on est d'abord en concurrence peut-être, et puis en fait cette personne va peut-être nous apporter des choses dont on a besoin. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours traité dans ce que j'écris d'amour et d'amitié. Ça peut être un peu bateau, mais pour moi c'est la même chose. Il y a vraiment un fil entre les deux, et c'est la même chose. Et quand on est amoureux, on a le droit d'être ami aussi avec la personne qu'on aime, et on a le droit d'être amoureux de la personne avec qui on est ami.
On va le dévorer, ce livre. Je sens, pour ces fêtes, en tout cas, qu'on va passer un bon moment en le lisant. Et puis, le livre, c'est peut-être le seul secteur aujourd'hui encore on peut s'évader, qui est moins prisé, effectivement, par la dématérialisation. On aime l'objet encore. C'est ça qui est bien.
C'est exactement ça. Mon précédent livre s'appelait Un livre. Et je parlais justement, entre autres, de l'objet livre. Moi, j'aime l'odeur du livre. J'aime l'avoir. Par exemple, j'ai une amie qui a lu mon livre il n'y a pas longtemps et qui est partie à l'étranger avec, et je l'ai vu à son retour. Le livre était, elle est partie au Mexique, et le livre était empreint d'odeur du Mexique. Il était raturé, il était coronné. Et je lui dis, tu peux me le donner 2 secondes que je le sente. Et j'ai respiré mon livre qui avait fait ce voyage, et où je sentais, elle avait souligné plein de phrases qu'elle avait adorées, etc. Et en même temps, je savais que ce livre a été au bout du monde. Et je me suis dit, en fait, donc j'ai écrit ce livre chez moi ou dans des cafés, enfin voilà, dans mon truc. Et puis tout à coup, ces mots ont voyagé au bout du monde, et elle se l'est approprié, et dans son sac, dans ses vestes, dans sa main, sur le sable. Et je lui ai juste demandé, est-ce que je peux le sentir? Et en fait, c'est comme le bois, en fait, pour moi, les livres. Enfin, d'ailleurs, c'est du bois, mais il s'imprègne des énergies, des odeurs, de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'un livre me bouleverse. Quand je vais chez quelqu'un qui, par exemple, il n'a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livre, je ne suis pas content. Et pour découvrir la personne juste en regardant les livres qu'il a dans sa bibliothèque.
Et bien, en tout cas, on vous donne plein d'idées, justement, culturelles et de livres pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est ça qui est bien. Les projets pour 2025, puisqu'on est là à 8 jours de la fin de l'année.
Les projets, c'est déjà de bien finir l'année, parce que c'est important de bien la commencer. On se souhaite souvent les vœux de bonne année, mais on devrait se souhaiter les vœux de fin d'année, parce que on a passé tous une année, chaque année est toujours un peu complexe et compliquée, avec ses hauts et ses bas. Donc bon, voilà, cette année j'ai eu des très belles choses, j'ai eu des choses plus compliquées, enfin voilà, comme tout le monde. Et donc j'aimerais finir cette année avec douceur et souhaiter à tout le monde qu'elle se finisse de la même manière. Et puis la nouvelle année, elle commence, je vous dis, je commence le tournage de Master Crime. Je suis en train d'adapter mon livre en scénario pour peut-être en faire, j'espère, un film plus tard. Et j'ai un projet de théâtre qui est en cours, je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est pas encore signé. Et puis la vie, j'espère que la vie me réserve encore de plein de choses. Vous savez, je fais ce métier, vous m'avez dit, on s'est vu il y a 18 ans, donc je fais ce métier depuis longtemps, et ce métier parfois... Eh ben, on attend qu'il se passe des choses, et puis il se passe pas forcément les choses qu'on voudrait, puis parfois il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas, et voilà, c'est un métier fascinant, passionnant, et il faut savoir être dans l'instant et accepter ce qui arrive et ce qui, voilà, et provoquer aussi les choses, donc c'est ce mélange-là. Donc moi, j'encourage tous les gens qui nous écoutent, tous les auditeurs, à vivre l'instant et en même temps provoquer votre destin, provoquer les projets, provoquer les envies, provoquer. Voilà, n'ayez pas peur d'aller là où on ne vous attend pas, peut-être. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Michael Cohen dans Master Crime, les deux saisons en intégralité sur TF1+. Et puis le livre L'attraction du désordre à découvrir dans tous les bons espaces culturels pour cette fin d'année. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous.
Merci à vous tous.
Et joyeux Noël.
Bonne fête.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
La neige étend son manteau blanc sur la terre et les petits enfants ont mis leurs souliers devant la cheminée. Le sapin brille de mille feux, les étoiles dansent dans les yeux, et partout on entend chanter des airs de joie qui volent vers le ciel pour célébrer cette nuit éternelle. Le serment solennel de nous aimer, de ne jamais nous quitter. Si on se mariait, toi et moi à Noël. La ville scintille dans la vallée. Les cloches sonnent pour annoncer que l'amour va enfin triompher. Les flocons volent dans le vent, plus rien ne sera plus comme avant. Nous ne nous cacherons plus pour nous aimer. Et le petit papa
audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné pour ces fêtes de Noël, on continue décidément parce que ça sort mercredi également dans les salles pour le jour de Noël. Si vous avez envie d'aller vous faire un petit ciné, eh bien allez voir Mon Inséparable. Et Anne-Sophie Bailly, justement la réalisatrice, est avec nous. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Scénariste aussi.
Oui, c'est vrai.
T'as tout fait sur le film, hein. Tu as écrit, réalisé. Où est venue un peu justement l'idée de cette histoire incarnée avec brio par Laure Calamy et de jeunes comédiens que vous allez découvrir qui sont absolument épatants?
La première idée, elle vient d'une rencontre que j'ai fait adolescente. J'ai travaillé en maison de retraite avec ma maman qui est infirmière et j'ai travaillé un été avec elle dans une maison de retraite où il y avait un duo. C'était une maman et sa fille, une maman qui avait environ 80 ans et sa fille qui avait une soixantaine d'années, qui s'appelait Yolande. Et en fait, les deux avaient toujours vécu complètement collés parce que Yolande avait ce qu'on appellerait un petit retard intellectuel. Et donc, elles avaient une relation hyper forte, vraiment à la fois fusionnelle et pleine de conflits. Quand j'ai vu cette relation, je me suis dit à la fois que ça me rappelait plein de choses de ma propre relation avec mes parents et dans le même temps que tout était vraiment XXL. et je trouvais intéressant de se dire que le handicap, finalement, il permet de mettre une loupe sur ce que c'est que l'amour filial. Est-ce que ça a de beau et de rugueux et de compliqué, ce mélange qui est tellement particulier, quoi. Donc ça vient de là.
On va y suivre le parcours de Mona qui vit avec son fils Joël, qui a un petit truc en plus, on pourrait dire comme ça. Joël travaille dans un ESAT, ce qu'on appelle, c'est un établissement spécialisé, et il a une collègue Océane dont on a l'impression quand même très vite qu'ils sont éperdument amoureux. Et cet équilibre mère-fils entre Mona et son fils Joël va un petit peu vaciller au moment où il va se passer un événement un peu inattendu entre Océane et Joël, qui sont en couple tous les deux. Et évidemment, c'est aussi une espèce de road movie, d'une quête de soi, et puis aussi une histoire d'émancipation un peu quand même pour Joël aussi.
Pour Joël et pour Mona. En fait, j'ai vraiment la sensation que Joël, en s'affirmant, en affirmant ses désirs, en affirmant cette fin de vie qu'il partage avec Océane, quelque part, il permet à sa mère de s'émanciper aussi. Et c'est vraiment ça que je voulais construire, c'est-à-dire évidemment, on attend peut-être plus d'un jeune homme qui s'émancipe, mais je trouvais beau qu'une femme d'une cinquantaine d'années puisse s'émanciper elle aussi, et qu'elle ait envie de reprendre sa liberté, quoi, et ouais, qu'il lui donne l'occasion de ça.
Et surtout de faire un peu plus attention à elle, puisqu'elle a donné pendant 30 ans toute sa vie à son fils, justement. Il y a quelque chose d'hyper perturbant pour Mona, évidemment, c'est un peu l'inconnu pour elle, et Laure qu'elle a mis, elle est incroyable. Comment s'est fait ce choix, justement, de Laure ?
Laure, moi, je l'ai découverte, en fait, plutôt au théâtre. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai travaillé au théâtre et je l'ai découverte notamment avec Vincent Macaigne dans des rôles de grandes tragédiennes. J'ai pas commencé ma relation de spectatrice avec Laure avec la Laure de 10% ou cette énergie électrique comme ça. J'ai commencé avec une vraie grande tragédienne et je trouve que ce qui est très beau chez Laure, qui me bouleverse chez Laure, c'est la coexistence entre cette vitalité qu'on lui connaît à l'écran, beaucoup confère 10%, Antoinette dans les Cévennes et tout ça, donc cette espèce de chose rythmiquement très forte et tout, avec des capacités de gouffre émotionnel immense.
Une fragilité émotionnelle totalement dingue.
Ouais, et je crois que elle comme moi, on avait très envie de subvertir un peu ce personnage de la mère courage, c'est-à-dire de le mettre dans une situation où elle arrête d'être la mère courage, où enfin elle arrête de subir. Et qu'est-ce qui se passe ? C'était quelque chose qui nous mettait en mouvement toutes les deux de façon très instinctive, quoi. Donc on a cherché ça ensemble et puis Laure elle m'a aussi fait la gentillesse de passer une demi-journée à travailler avec les jeunes hommes auxquels je pensais pour Joël. Donc on a pu vraiment choisir Joël ensemble et c'est devenu un duo très fort. Ça s'est imposé vraiment comme un duo très fort.
C'est vraiment des jeunes différents, c'est vraiment un comédien qui joue vraiment, parce que moi je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'est vraiment un comédien qui a un truc en plus.
Ben voilà. Non, alors en termes de parcours, Charles qui joue Joël et Julie qui joue Océane, ils sont un petit peu différents. Charles, c'est un comédien professionnel qui se trouve à avoir des particularités. Et Julie, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée en atelier d'improvisation en ESAT, dans le même genre d'institution dans lequel travaillent Joël et Océane dans le film.
Il a dû falloir une extrême confiance pour arriver à tirer ce que tu as réussi à tirer d'eux. En tout cas, une immense confiance entre vous et c'est beau à voir. Et là, j'espère que ça va être beau à entendre parce que Mon Inséparable, c'est mercredi au cinéma. On écoute la bande-annonce ensemble et on revient juste après avec la réalisatrice Anne-Sophie Bailly qui est avec nous aujourd'hui.
Hé, hey, Océane ?
C'est quelqu'un. S'en fiche.
Pour toi ? Je peux te parler.
Joël avait été plutôt avide de questions là-dessus.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, Océane ?
Elle m'a dit, je suis amoureuse de Joël. J'avais compris qu'ils avaient un peu d'intimité, mais je m'attendais pas du tout.
Vous le connaissez vraiment, votre garçon ?
Et vous connaissez vraiment votre fille ?
Gabriel, écoute, c'est ridicule.
Voilà, Mon Inséparable, c'est donc pour ce jour de Noël. Vous allez pouvoir profiter des vacances de Noël, en tout cas pour aller voir cette très jolie histoire, incarnée de main de maître, évidemment, par Laure Calamy et des jeunes comédiens hyper talentueux. On peut y citer Charles Peccia, on dit, ouais. Galetto. et puis Julie Froger. Et puis vous allez voir, il y a tout plein de comédiens qui gravitent autour d'eux. Je parlais de confiance aussi pour livrer justement autant de personnalités chez Joël évidemment et chez Océane. Il y a dû y avoir une confiance qui s'est instaurée entre vous, incroyable.
Ouais, une grande confiance. Et puis aussi j'ai jamais relâché mon exigence. En fait, j'ai fait très attention à ce que leurs besoins spécifiques à tous les deux soient respectés le plus possible, mais je voulais pas baisser mon exigence parce que pour moi c'est deux immenses interprètes et il fallait qu'on aille au bout de ce qu'on cherchait ensemble. Donc effectivement, il y avait une grande confiance, une grande exigence. Ils ont aussi été très exigeants avec moi. Ils attendaient de moi d'être peut-être aussi à la hauteur de ce qu'ils livraient, quoi. Ça a été une relation très forte.
Tu te rappelles de la première scène justement du film que t'as tourné?
Oh oui, je m'en rappelle parce que en fait, il y a plusieurs parties du film où il y a des éléments documentaires qui sont intégrés à la fiction, et il y a notamment un moment où Joël se perd dans une sorte de carnaval, une Ducasse belge. Et en fait, donc évidemment, je devais m'accoler à une vraie Ducasse. Je pouvais pas fabriquer une Ducasse avec des centaines de figurants. C'était absolument impossible. Donc on a tourné dans la Ducasse date. Et pour ce faire, on a dû faire un petit bout de tournage anticipé. Ce qui était assez terrifiant parce que c'était vraiment lâcher mes comédiens dans une foule pour les premiers jours de tournage. Et je me souviens que avant de tourner, j'aurais envoyé une lettre à tous les deux et je leur ai dit, évidemment j'ai peur, c'est un peu impressionnant, c'est, en plus ça risque d'être un peu bordélique techniquement, je veux dire, on doit travailler avec le réel et tout ça. Mais je trouve que la chance immense qu'on a, c'est de pouvoir explorer ensemble comment Mona et Joël sont quand ils sont seuls.
Moi, la première fois quasiment qu'ils sont séparés finalement.
Complètement, et je trouve que c'est quand même une chance aussi pour rencontrer un personnage. De se dire comment il est quand il est seul au milieu des autres. Et on a des plans à ce moment-là, à la fois de Mona et de Joël, seul au milieu des autres, seul et si entouré. C'est avec ça qu'on a commencé. C'était rocambolesque à bien des égards, mais ça nous a donné une énergie. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour commencer.
Sur grand écran, il y a des scènes d'une grande beauté, celle du début avec la piscine, avec quelque chose de très cinématographique dans la lumière. Chef opérateur justement et directeur de la photographie ont dû faire un travail énorme. Et puis une scène où on retrouve justement Laure Calamy sur le bout d'un ponton avec cette espèce de brume de mer du Nord belge. C'est deux scènes qui sont absolument magnifiques à l'image au cinéma.
En tout cas, ces deux scènes, évidemment, il y a un élément commun qui est l'eau. Hein. Et cette première scène, je voulais qu'on raconte quelque chose d'un rapport de ces deux corps l'un à l'autre, d'un rapport symbiotique avec cette espèce de symbole du bain amniotique qui nous embarque dans l'histoire. Et que finalement, la deuxième fois que Mona se jette à l'eau, au moment de ce ponton, ça soit, moi je pense que ce qui rend aussi ce plan très éloquent, c'est le fait qu'on sort d'un tunnel de musique. On est dans la Ducasse pendant quand même plusieurs minutes, et quand ça s'arrête, que ce plan large s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi pour moi physiquement comme spectateur et qui s'ouvre pour Mona, dans sa tête, je veux dire.
Et où était Cobien là, pour Laure?
Oh, l'eau était froide. Et Laure, en fait, elle a cette chose magnifique des actrices qu'on fait du théâtre, c'est-à-dire qu'elle a un amour de la performance.
Ouais. Rien qui lui fait peur.
Il y a des choses qui lui font peur, mais ça la titille forcément. C'est-à-dire, il y a vraiment, moi, je sens, même quand je parle avec elle des films précédents, la façon dont elle parle de l'âne, dont elle, c'est une comédienne qui aime se frotter à des nouvelles choses, qui aime qu'on lui lance des défis. Donc non, elle a pas du tout rechigné. Alors, elle a été super. Elle était gelée, hein, pourtant, mais elle a été super.
Anne-Sophie, demain soir, c'est le réveillon. On souhaite que tu passes en tout cas de très belles fêtes, même si quand on a un film qui sort le jour de Noël, ça peut toujours créer un petit stress quand même entre la dinde et la bûche. Mais en tout cas, on te souhaite plein de belles choses et j'espère que pendant les fêtes, vous allez voir ce très beau film, ça s'appelle Mon Inséparable. Anne-Sophie, on va te souhaiter un joyeux Noël en tout cas et merci d'avoir été avec nous à la veille du réveillon pour passer ce moment avec nous en toute intimité. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt. Joyeux Noël.
Je sais qu'à 6 semaines, vous pouvez encore décider de...
Je sais.
Parce que le père d'Océane, il n'est pas du tout.
Oui, mais c'est pas lui qui décide.
S'il pleure, vous faites quoi?
Je vais prendre dans mes bras. C'est pas ça?
Si.
Je veux le bébé avec Océane. J'ai le droit.
T'as le droit. m'aides pas, hein, Joël, vraiment.
Et ben toi non plus.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, on vous fait revivre le meilleur de Chute, on écoute la télé de 2024 avec la venue de Joseph Kamel, qui est le parrain de cette saison qu'on revivra. Les menus de Danny Boone ou encore de Nelly Lawson et Mayel Alajaoui pour Demain nous appartient et plein d'autres surprises. En attendant, évidemment, nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe de votre radio un joyeux Noël, un joyeux réveillon. Profitez bien de ces fêtes en famille et on vous retrouve lundi prochain pour un best-of exceptionnel pour revivre le meilleur de Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.